Paul Bourget. L'écran. Chapitre 1. Au mois de juin de l'année dernière, deux des ménages les plus élégants du jeune faubourg Saint-Germain, les Antoine de Lautrec et les Guy de Sarliève, firent la partie, au lendemain du Grand Prix, d'aller passer quelques semaines en Angleterre pour assister à la fin de la saison londonienne avant de se rendre, les premiers à Carlsbad, les seconds tout simplement dans leur terre de Picardie. Quoique ces voisinages, si l'on peut dire, de la société en deçà de la Manche et au-delà, demeurent une exception, ils sont assez fréquents, depuis l'exil des princes, pour que cette fantaisie parût toute naturelle. Elle n'aurait même pas été mentionnée dans la petite coterie où se mouvaient ces deux charmantes femmes, aussi différentes, on le verra, par le caractère et la façon de sentir que pareilles par la naissance et la fortune, sans le départ simultané, pour ce même Londres, d'un jeune homme que l'on disait follement amoureux de l'une d'elles. Il convient aussitôt d'ajouter que cette passion, presque ouvertement avouée, du vicomte Bernard Dédy, c'était son nom, pour la fine et délicate marquise Aliette de Lautrec, n'avait jamais terni, auprès des pires médisants, la réputation de la jeune femme. C'est le trait, peut-être, qui distingue le plus nettement ce monde du faubourg, ou ce qu'il en reste, du monde tout court. Les familles, pas très nombreuses, qui composent ce dernier bataillon sacré de l'ancienne aristocratie française, se fréquentent depuis plusieurs générations. Toutes ont plus ou moins cousiné ou cousineront par des mariages. Les garçons et les filles y grandissent les uns avec les autres, si bien que le caractère de chacun et de chacune y est connu, du pied et du plan, comme s'expriment les vignerons dans leur argot pittoresque. Il en résulte que les réputations y sont beaucoup moins qu'ailleurs, à la merci d'un propos désobligeant ou d'une vraisemblance calomnieuse. Madame de Lautrec avait, parmi ses amis, une renommée, établie depuis tant d'années, de piété sincère, presque de dévotion. La pureté, la sévérité même de sa conscience, étaient choses si évidentes pour toutes ses compagnes d'enfance et de jeunesse. La transparence de ses habitudes quotidiennes laissait si peu de place aux moindres soupçons que les empressements du beau Dédy, qui, auprès d'une autre, eussent constitué la plus dangereuse et la plus coupable indiscrétion, se trouvaient n'avoir compromis que lui, et si les commentateurs des salons et des clubs soulignèrent la coïncidence de son départ avec le départ de la marquise, ce fut, une fois de plus, pour s'égayer à ses dépens. « Encore une gaffe de Bertrand, il n'en manquera pas une !» avait dit Crucet, la plus mauvaise langue de la rue Royale, en montrant un journal où le nom de l'amoureux figurait sous la rubrique « Déplacement et villégiature » et, en face, figuraient les mots révélateurs « À Londres ».« À Londres », répéta-t-il, « il va y ennuyer cette pauvre Aliette qui ne peut déjà pas le souffrir à Paris. Si vous l'aviez entendu quand je lui en ai parlé l'autre jour, mais non, je vous assure, il ne me gêne pas. » De mon temps, nous avions plus de dignité, et quand nous étions bien sûrs qu'une femme que nous aimions ne nous aimerait jamais... « Eh bien, que faisiez-vous ? » avait demandé un petit jeune, un noblio de province, qui croyait aux puissances parisiennes, et, à ce titre, il ménageait cette peste de Crucet, ce brocanteur déguisé en homme du monde, ce parasite professionnel dont Casal disait si drôlement... Il passe pour connaisseur en cigares à force d'en avoir accepté. Eh bien, nous aimions ailleurs, avait répondu Crucet, et il arrivait 9 fois sur 10 que ce petit jeune nous donnait par-dessus le marché la personne qui nous avait dédaignés. Ce ne serait pas le cas pour Aliette, avait-il ajouté vivement. Je l'ai connue haute comme cela, cette petite. C'est une sainte. Pauvre Aliette! Disait à la même heure Madame de Corcieux, qui ne professe pourtant pas l'indulgence à l'égard des jolis péchés qu'elle ne peut plus commettre, ni des jolies pécheresses qui lui ont succédé. Et elle montrait à son mari la même ligne dans le même journal, et elle aussi, elle plaignait Madame de Lautrec. Ce jeune dadais lui court après jusqu'en Angleterre maintenant. Il ne sera content que lorsqu'il aura fait parler d'elle. Heureusement, elle est de celle devant qui la calomnie désarme. C'est égal, répliquait cet excellent Corcieux, fameux 30 années durant par son aveuglement conjugal. À la place de Lautrec, je rappellerai ce monsieur à la discrétion. Ce serait lui rendre service. Ce petit Bertrand était gentil. Il tourne au grotesque à jouer l'amoureux transi et à courir l'Europe dans les malles de son idole. Combien de propos analogues avaient été répétés à Bertrand Dédy par de bons amis et des amis meilleurs encore, depuis le jour lointain déjà où il avait donné en pâture à la malveillance publique son amour sans espoir et presque publiquement avoué pour la femme la plus inaccessible de son monde. Ce joli garçon à l'œil éveillé, au sourire fin, connaissait bien son pari et il avait, certes, prévu ses malignités. S'il est bravé, en affichant un hypnotisme d'adoration platonique un peu ridicule, s'il consentait à jouer ce rôle, toujours vaguement nié chez nous, du petit au trop épris pour cacher sa flamme, comme on disait dans les tragédies, il fallait que cette flamme fût réellement bien ardente ou qu'il eût, à part lui, ses bonnes raisons. Mais ces motifs secrets de notre conduite visible, qui donc à Paris nous portent assez d'intérêt pour les discerner ? En aucun endroit, on ne prend plus vite un personnage pour ce qu'il se donne, surtout lorsqu'il s'agit des choses de l'ordre sentimental. Aussi, toutes les madames de Corcieux et tous les Crucet qui raillaient, gaiement ou cruellement, la passion sans espoir de Bertrand Dédy, eussent-ils été surpris jusqu'à la stupeur, jusqu'à l'indignation plutôt, si, quelques jours après cette annonce du départ du jeune homme pour Londres, le même jour et par le même train que la marquise Aliette, ils avaient pu être magiquement transportés dans un des coins les plus paisibles de la vieille ville anglaise vers 11h30 du matin. Là, sous les ombrages des beaux arbres d'une allée du parc de Kensington, ils auraient vu, pour la plus grande humiliation de leur malveillance, ce grand dadais, ce gaffeur, s'avancer, souriant, hâtif, ravi, vers une femme qui visiblement l'attendait. Et celle vers qui le jeune homme marchait ainsi du pas des amants heureux, plus alerte à l'approche d'une maîtresse aimée, ce n'était pas la pure et sérieuse Madame de Lautrec, c'était son amie intime, cette gaie, cette insouciante Emmeline de Sarliève, que les rires enfantins, la franchise de sa camaraderie quasi masculine, son enjouement, préservaient de toute médisance, et surtout cette intimité avec l'irréprochable Aliette. Ce qui prouve, entre parenthèses, qu'en amour, les ruses classiques seront toujours les meilleures et qu'une admiration très affichée pour une très jolie personne reste l'infaillible moyen d'assurer un impénétrable mystère à une liaison avec une autre. Un humoriste a spirituellement qualifié de femme écran ses fausses idoles, inconscientes complices du plus déloyal manège. Avec ses tendres prunelles bleues, son teint de roseté, ses traits menus, sa bouche songeuse, ses cheveux d'or soyeux, sa taille mince, la souveraine distinction de ses gestes, son art inné de la toilette, son gracieux esprit, son grand nom, sa belle âme, toutes les supériorités enfin qui la rendaient digne d'être aimée pour elle-même, l'exquise Madame de Lautrec servait tout simplement d'écran à sa meilleure amie et à l'amant de cette amie. C'est une vérité triste à énoncer, mais d'une expérience si commune qu'elle en est banale. L'amour heureux a tôt fait de perdre le sens de la droiture quand il s'agit de protéger ce bonheur, comme l'amour malheureux a tôt fait de perdre le sens de la justice et de la délicatesse quand il s'agit d'assouvir sa vengeance. Par cet adorable matin d'un commencement d'été anglais, ni la romanesque Emmeline de Sarliève, ni le sentimental Dédy ne paraissaient, en s'abordant l'un l'autre, éprouver le moindre scrupule du double mensonge sur lequel posait leur liaison, mensonge à l'égard du mari, mensonge à l'égard de l'ami intime. Ils marchaient maintenant l'un près de l'autre, et le délicieux décor du parc développait autour d'eux ces immenses pelouses vertes, où des moutons paissaient comme en pleine campagne, où des hommes et des femmes, étendus sur l'herbe, sommeillaient sous la caresse d'un soleil tiède, comme mouillés, comme estompés, de molles buées bleuâtres. Des êtres séculaires déployaient l'ombre fraîche de leurs branches feuillues au-dessus de ce couple deux fois perfide qui représentait une image du parfait bonheur, isolé ainsi dans cette oasis, au milieu de la vaste ville étrangère. En se retournant, les deux amoureux pouvaient voir, par-delà le miroir d'eau de la Serpentine, ondoyer le fourmillement des voitures et des cavaliers dans la partie élégante de Hyde Park, prolongement des jardins de Kensington où ils se promenaient. Une rumeur leur arrivait de l'énorme Londres, vague et adoucie, comme la nuance de ce ciel ouaté de vapeur. Toutes les rues étant pavées de bois, la plus populeuse des capitales réalise ce paradoxe d'un demi-silence autour de sa formidable activité. cette paix profonde et presque rustique, cet horizon des Glogues à deux pas de Piccadilly, la joie d'errer en tête à tête, au lendemain d'une soirée, chez une des duchesses les plus collémontées de Belgrave Square, et à la veille de quelques garden parties chez une autre, plus collémontée encore, que de raisons pour savourer cette heure rare et pour endormir tous les reproches de conscience. Jamais le profil caressant et félin de son amie n'avait paru plus séduisant à Emmeline. Jamais elle-même ne lui avait montré un visage plus épanoui, plus joliment troué de fossettes rieuses, mutinement éclairé par ses belles dents blanches et ses beaux yeux bruns. Dans sa toilette claire de batiste mauve, sous son ombrelle de soie changeante, dont ses doigts gantés de peau souple maniaient la poignée de saxe, avec la prodigalité de coquets bijoux inutiles qui pendaient à sa chaîne de cou, à ses bracelets, à sa ceinture, et dont chacun rappelait quelques souvenirs de leur amour, foulant l'herbe feutrée de ses petits pieds menus, chaussés de petits souliers vernis qui contrastaient avec la nuance claire de la jupe, c'était vraiment une apparition délicieuse. On eût dit une des folles amoureuses de Watteau, parée à la moderne, mais gardant autour d'elle le charme des fêtes champêtres ou des embarquements pour citernes, peints par le plus voluptueux des maîtres pour le plus voluptueux des siècles, et sa grâce était telle que même les duchesses de Belgrave Square, si haute église qu'elles pussent être, eussent accordé leur indulgente absolution au jeune homme qui lui murmurait, presque à voix basse, comme s'il eût eu peur d'un témoin, « Cher, chère Emmeline, que je suis heureux aujourd'hui que vous n'ayez pas écouté mes objections quand vous avez parlé de ce voyage à Londres. Jusqu'ici, je n'avais jamais compris ces amoureux qui ont la fantaisie d'aller s'aimer loin de leur pays. Que je les comprends à présent, et comme je sens mieux le charme de vous adorer dans ce cadre nouveau, avec cette idée que j'ai tout mon bonheur, toute ma joie de vivre ici, au milieu de cette ville dont pas une maison ne me connaît. » « Ah, mon fou !» interrompait-elle, avec l'ironie émue que les femmes opposent à ces lyrismes dont elles raffolent en s'en défiant. Elles savent d'instinct que les plus vraies émotions sont les plus muettes. Un homme qui dit trop qu'il est heureux s'enterrait s'il était autant qu'il le dit. « Moi, je suis plus prosaïque, » continua-t-elle. « C'est la sécurité de l'étranger qui me semble si douce. » Dire qu'à Paris, je n'ai jamais osé me promener au bois avec vous et j'en ai eu si souvent envie. Oui, ce voyage aurait été délicieux. Il l'est trop. J'ai dans l'idée qu'il nous arrivera quelque chose. Quelque chose, répéta le jeune homme, riant d'un joli rire de hardie confiance. Mais quoi encore? Est-ce que je sais, répliqua-t-elle, que Guy devienne jaloux, par exemple? Lui, jaloux? Quelle idée! Hier encore, après le dîner chez Lady Helston, quand nous sommes restés à boire, vous, une fois parti, suivant la drôle de coutume de ce pays, il est venu s'asseoir auprès de moi. Le champagne bru de Lord Helston et son vin de Porto lui avaient sans doute paru excellent, car il était très expansif. Il s'est mis à m'entretenir de Madame de Lautrec avec une voix qui me plaignait sur mes sentiments. Et le jeune homme ajouta, mais sans rire maintenant, quelquefois, j'aimerais mieux qu'il fût jaloux et surtout qu'il me parlât moins de la marquise Antoine. « Mais pourquoi ? » demanda Madame de Sarliève en cessant de sourire, elle aussi. Ce ne fut qu'un passage et de nouveau gaie et coquette, avec un éclair singulier pourtant d'inquisition curieuse au fond de ses yeux bruns, « à moins que vous n'ayez peur d'en devenir amoureux. La voilà encore la chose qui pourrait arriver. Je me le dis souvent. » Je suis bien imprudente de me fier tout à fait à vous. Elle est charmante, Aliette, et les hommes qui ont le plus d'honneur en ont si peu quand il s'agit d'amour. La jolie comtesse disait cela sérieusement, et elle était de bonne foi, et elle avait eu la première, la machiavélique imagination de l'ami écran. Et Bertrand l'écoutait sérieusement aussi, et s'il se défendait en hochant la tête, il ne pensait pas à remarquer cette non moins fantastique inconséquence. Il osait affirmer son honneur en amour, lui, le docile exécuteur de cette malhonnête fourberie. Et l'inconsciente Emmeline continuait « Ce qui me rassure, c'est qu'elle est vraiment une sainte. »« Vous voyez bien, » interrompit le jeune homme, à qui cette conversation n'était sans doute pas très agréable, « que j'ai raison d'être fatigué d'entendre toujours son éloge. Savez-vous la chose qui pourrait très bien arriver ? c'est que je devins incapable de continuer cette innocente comédie de l'amoureux transi à qui tout le monde vient chanter les vertus de sa belle. Que doit être ce métier-là quand c'est pour de vrai et sans compensation ? Mais nous en avons des compensations, reprit Emmeline coquettement, soit qu'elle fût de nouveau rassurée par le ton persifleur de son amie, soit qu'elle jugeât impolitique cette allusion à des possibilités qui, depuis quelque temps, troublaient souvent sa pensée. Puis, avec une nuance dans sa façon d'appeler Bertrand, qui trahissait le secret mouvement de son instinctive jalousie, comme si elle eût voulu bien se prouver qu'il était à elle, rien qu'à elle, « As-tu reçu l'invitation d'aller avec nous à la campagne, de samedi à lundi, chez Lady Semley ? Elle m'a demandé ton adresse pour te l'envoyer hier au soir. »« C'est reçu, » fit-il, « et répondu. »« Et moi, j'ai une autre nouvelle à t'annoncer, » reprit-elle. « C'est que, décidément, Guy ne vient pas. Il a accepté à déjeuner dimanche chez je ne sais qui pour voir des chevaux. C'est pour cela que je t'ai fait inviter. » Il y eut une minute de silence entre eux. Ils échangèrent un regard où brilla, où sourit l'espérance d'un rendez-vous plus intime dans ce château où ils passeraient deux nuits libres. Leurs yeux se détournèrent comme s'ils éprouvaient, malgré tout, un peu de honte à l'idée de ce qu'il y avait d'avilissant pour leur bonheur dans les trahisons par lesquelles ils l'achetaient. Leur bonheur ? Oui, tout disait qu'ils étaient heureux. N'avaient-ils pas, à cette minute, autour de leur amour, les idéales conditions dont rêvent un homme et une femme, que tente la poésie défendue des aventures de ce genre, les loisirs de la fortune et ses raffinements, la jeunesse et la beauté, le mystère, et jusqu'à cette piquante fantaisie d'un rien d'exotisme, si loin de Paris et de leurs habitudes. Leur bonheur ? Oui, ils devaient être heureux. Pourtant, cette secrète morsure de honte, et auparavant et surtout, le rapide éclair d'inquisition qui avait lui dans les prunelles brunes d'Emeline en parlant d'Aliette, la façon que Bertrand avait eue de répondre sans regarder sa maîtresse, ces signes de réticence suffisaient à prouver qu'ils n'étaient pas tout à fait transparents l'un à l'autre. Le vrai bonheur n'a pas de ces arrière-fonds obscurs. Mais il faut bien que les élégantes scélératesses se paient comme les autres, et peut-être sentaient-ils tous deux vaguement que le châtiment de la leur sortirait, comme il arrive, de sa réussite même. S'il était permis, dans cette simple chronique d'une complication sentimentale, de prononcer un aussi grand mot, je dirais que c'est toute la moralité de ce demi-drame dont les grands êtres du jardin de Kensington voyaient s'ébaucher le prologue, entre cette pimpante rouée qui ne se croyait qu'une presque innocente amoureuse et son complice, plus faible encore que coupable. Et lui, il étouffait déjà ses remords en se grisant de la beauté de son amie et il lui répétait, en la regardant avec passion, afin de mieux se prouver l'intensité de sa propre extase, « Quel doux matin ! Que je suis content et que je vous aime !»